2 Corinthiens. Si vous n'avez pas une Bible, il devrait y en avoir quelques-unes de disponibles à l'arrière. Il suffit de lever votre main. 2 Corinthiens. Chapitre 12. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la grâce de Dieu. On raconte qu'il y avait une fois un homme qui avait fait toute sa vie des économies pour se payer une croisière. Il avait vu des publicités à la télé. Il avait vu des feuilletons à la télé. Et il s'était dit, je travaille toute ma vie, mais un jour je me payerai cette croisière. Et donc il avait vraiment économisé euro par euro. Je traduis, hein, je convertis pour qu'on... À l'époque c'était des anciens francs. Il avait juste le prix du billet. Et il s'est dit, pour faire des économies, pour pouvoir faire cette croisière, je vais préparer des sandwichs. Comme ça, je n'aurais pas à dépenser d'argent pour la restauration. Donc, il avait pris du pain de mie. Parce qu'il connaissait les bons sandwichs de la SNCF. Il avait mis une petite tranche de jambon. Il les avait enveloppés dans du papier cellophane. Il en avait rempli une valise. Et puis la croisière avait commencé. Et à chaque moment, à l'heure du repas, il retournait dans sa cabine. Il ouvrait sa valise. Et il prenait un sandwich SNCF au jambon. Bien sec. Mais il se disait, au moins, je peux participer à cette croisière. Mais à chaque fois, il passait, il voyait ces somptueuses tables remplies de nourriture de toutes les couleurs, en abondance. Avec des fruits du monde entier. Des spécialités de tous les pays du monde. Et au bout d'un moment, il en avait marre de ses sandwichs SNCF. Mais il n'osait pas, il savait que ça devait coûter une fortune. Jusqu'au jour où un des maîtres d'hôtel remarqua qu'il regardait cette nourriture. Et lui dit, mais prenez une assiette et servez-vous. Il a dit, oui, mais j'ai pas d'argent. Et il m'a dit, attendez, vous avez un billet? Vous avez payé pour la croisière? Oui, oui, j'ai économisé toute ma vie.
Eh
bien, alors, vous avez accès à ce banquet. Vous pouvez prendre n'importe quelle nourriture. Le gars était complètement bouleversé. Et ça, bien sûr, il ne s'agit pas de parler de restaurant aujourd'hui. Mais c'est une illustration malheureusement trop vraie de comment les chrétiens vivent la grâce de Dieu. Le salut, l'amour de Dieu est gratuit.
Salvation, God's love are free.
Parce que Dieu a payé le prix.
Because God paid the price.
Mais lorsque nous venons à lui, lorsque nous reconnaissons tout ce qu'il a fait pour nous, nous avons accès à toutes ces richesses spirituelles, c'est toutes ces bénédictions, tout son encouragement, toutes ses promesses. Et trop souvent, nous vivons comme le gars. Nous allons chercher nos sandwichs SNCF. On se dit qu'on n'a pas mérité, on n'a pas payé toutes ces bénédictions, donc on n'y a pas droit. Et aujourd'hui, Dieu veut nous encourager. Il veut vous dire que quelle que soit votre situation, sa grâce est là. Qu'il y a un banquet, un festin superbe auquel vous êtes invité à participer. J'aimerais qu'on lise ensemble 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Vous vous souvenez du contexte, Paul se défend contre ceux qui attaquent son ministère. Il a implanté une église dans la ville de Corinthe, en Grèce. Il a enseigné le message de la grâce. La grâce qui est cet amour que nous ne méritons pas mais qui nous est offert et que nous devons seulement recevoir. Et de faux apôtres enseignaient qu'il fallait retourner à la loi. Qu'il n'y avait pas de déjeuner gratuit. Et qu'il fallait mériter par notre obéissance à des règles de vie, de loi, à des lois, pour pouvoir mériter l'amour de Dieu. Ce qui était terrible, c'est que ces faux apôtres avaient une grande influence dans l'Église. Parce qu'ils avaient beaucoup de prestance, beaucoup de prestige, et qu'ils se vantaient de leurs accomplissements. Et Paul, à contre-cœur, doit dire que lui aussi, il a des lettres de créance, il a des raisons d'être reconnu comme un vrai apôtre. Et donc, il est obligé de présenter un peu son CV. Et on a vu que son CV, la semaine dernière, c'est une liste de coups, de blessures, de difficultés, de sans nom et sans nombre. Et quelque part, les faux apôtres devaient dire aussi qu'en fait Paul c'était pas un véritable enseignant, c'était pas quelqu'un digne de confiance parce qu'il n'avait pas eu de vision divine, il n'avait pas eu de révélation. Encore une fois, Paul à contre-cœur va parler de lui au lieu de parler de Jésus-Christ. Et il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon, verset 12. Voilà, donc on va lire ensemble les versets 1 à 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais. Était-ce hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Un passage bien connu. Et en même temps, un passage un peu mystérieux. Savons que Paul était familier des visions. Il avait eu sur le chemin de Damas, il a vu la vision du Seigneur Jésus-Christ. Qui lui avait dit, pourquoi me persécutes-tu ? Il était tombé aveugle, il avait eu la vision de quelqu'un qui allait lui redonner la vue. Et en fait, quand on suit dans le livre des Actes la carrière de Paul, on voit combien de visions il a eues qui l'ont guidé dans sa démarche. Il a reçu aussi des révélations. Verset 7 pourrait être traduit à cause de l'abondance de ces révélations. Donc il répond à ces gens qui disent que oh, Paul, il n'est pas vraiment spirituel, il ne parle jamais de ses révélations, il n'en a pas eu. Ça le gêne tellement qu'il va parler de lui à la troisième personne. Quand il dit « Je connais un homme » en Christ, etc., il parle de lui. Ça devient évident quand on voit à la fin, à partir du verset 7, il passe à la première personne du singulier. Et donc, il connaît quelqu'un, et ce quelqu'un, il le connaît bien, puisque c'est lui-même. Qui a été ravi, attrapé, enlevé, emmené, aspiré jusqu'au troisième ciel. Troisième ciel, on y reviendra, c'est le paradis. Il l'explique au paradise, au chapitre, au verset 4. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit qu'il est, il s'est trouvé en présence de Dieu. Et qu'il n'a rien dit pendant 14 ans. C'est différent d'aujourd'hui. où il y aurait déjà un livre publié, une série télévisée sur la personne. Parlerait sur toutes les radios.
And spoken on all the radio stations.
Je crois que s'il y a une leçon pour nous à retirer,
and there's a lesson for us to take from this.
On peut avoir des expériences avec Dieu,
to have experiences with God.
Des expériences d'une grande intimité,
experiences in great intimacy.
Et on doit suivre l'exemple de Paul, les garder pour nous. Parce que le danger est trop grand que lorsqu'on les partage, c'est pas désintéressé, c'est pour que les gens disent « Waouh, quel homme spirituel, quelle femme spirituelle vous devez être !»
14
ans, on pense que ça nous ramène à l'époque où Paul, lors de son premier voyage missionnaire, avait été laissé pour mort dans la ville de Lystre. À chaque fois que Paul allait quelque part, soit il y avait un réveil, soit il y avait une révolte. Et on pense que peut-être c'est à l'occasion de cet épisode qu'il a eu cette expérience d'être emmené au troisième ciel. Et ça nous interpelle parce qu'aujourd'hui, il est très populaire de parler des expériences après la mort. Est-ce que Paul était mort ou est-ce qu'il n'était pas mort?
Was Paul dead or was he not dead?
Quand on est vraiment mort, on ne revient pas à la vie. C'est comme ça qu'on sait que la personne est morte.
That's how we know the person is dead.
Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de malades qui, pendant une opération,
today we talk a lot about sick people who, maybe during an operation,
font l'expérience d'une mort, on appelle ça une mort clinique, il faudra demander aux médecins.
Experience death, we sometimes call it a clinical death.
Et puis ils racontent après, c'est eux qui écrivent ces livres, sans attendre 14 ans.
They don't wait 14 years.
Ils se voient quitter leur corps.
And they see themselves leaving their bodies.
Et puis ils sont au plafond en train de regarder les chirurgiens s'affairer sur leur corps.
And they're somewhere up near the ceiling watching the surgeons working on their bodies.
Pendant que les médecins travaillent dur, eux font une expérience magnifique. Ils sont attirés par un tunnel de lumière. Ils arrivent dans un pays à la végétation luxuriante. En général, c'est muet. Mais ils retrouvent des chères personnes qui sont là, qui sourient, des membres de leur famille disparus qui sourient peut-être. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de paix, de joie, de bonheur. Ils reviennent et disent en fait, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de choses dures. Et après, tout le monde chante, on ira tous au paradis. Peu importe ce qu'on fait ici-bas, il n'y a pas de conséquences. Il y a cette merveilleuse lumière, cet amour. Le problème, c'est qu'ils reviennent à la vie, entre guillemets.
But the problem is, these people come back to life,
ce qui prouve qu'ils n'étaient pas vraiment morts.
Which proves they weren't really dead.
Et la Bible est formelle, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après ça, là, vient le jugement. Il n'y a qu'une personne qui ait fait l'expérience de la mort et qui soit revenue pour nous en parler. Et c'est Jésus.
And that's Jesus.
Il a dit, celui qui croit en Christ n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 20, 18, pardon.
In John 3,
18. Un autre livre a été écrit par un cardiologue américain. Qui s'appelle Derrière la porte de la mort, entre guillemets. Et il avait l'habitude d'être auprès de patients qui venaient de subir des graves interventions chirurgicales cardiaques. Et il a eu l'idée de leur demander leur réaction, leurs impressions tout de suite à leur réveil. Et beaucoup disaient avec terreur avoir vu des lacs de feu, des démons. Et on pense en fait que lorsque les gens voient ces choses, c'est comme un blocage mental qui se passe. Et ces choses horribles sont transformées en choses paisibles et belles à dire. On a vu que Paul disait que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et c'est vrai que dans les situations de deuil, on se trouve un peu bête, on ne sait pas quoi dire. Et on dit, on aime bien dire, par exemple, il ou elle a fini de souffrir. Ou bien, il est dans un meilleur endroit. Pour le chrétien, rien n'est plus sujet à question d'entendre ces choses. Non, pour le chrétien, on devrait mettre en doute ces paroles, ces affirmations fantaisistes. La bonne nouvelle dans le cadre de Paul, c'est qu'à un moment donné, il était sous des pierres, à moitié mort ou mort. Et là, l'instant d'après, il se trouvait en la présence de Dieu dans un endroit de paix et d'amour inimaginable. Ce cardiologue dont je parlais disait que ses interviews l'avaient transformé. Et qu'il réalisait qu'il y avait un choix.
And he realized that there was a choice.
Et qu'il fallait l'annoncer aux gens.
And that he needed to announce it to people.
De la même façon, Paul, qui a eu cette expérience, on sait qu'il avait une toute autre vision des choses, une vision éternelle. Il disait dans 1 Corinthiens 2:9, en parlant des choses merveilleuses qui nous attendent, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime.
Us, 2, 9,
Et donc Paul était au troisième ciel. Pour les Juifs, il y avait le premier ciel, c'était là où volaient les oiseaux, où se trouvaient les nuages. Jésus parlait souvent des oiseaux du ciel. Il y avait un deuxième ciel, donc ça c'était le ciel atmosphérique. Il y avait un deuxième ciel, c'était le ciel des astres et des étoiles, le ciel astronomique. Et ce troisième ciel, on pourrait dire que c'était le ciel apocalyptique. Dans le sens où il est ce ciel qui est révélé dans l'Apocalypse, cette demeure de Dieu où se trouve le trône de Dieu. Domaine du spirituel, de l'invisible. Et le cosmonaute qui disait que Dieu n'existait pas parce que lorsqu'il avait fait un tour de la Terre dans sa capsule, il ne l'avait pas vu. En fait, il n'était pas allé assez loin. Paul, lui, a fait ce voyage. Mais il n'est pas sûr qu'il y ait eu vraiment un déplacement physique. Il ne sait pas si c'est avec son corps ou si c'est simplement par son esprit qu'il est allé là-bas. Et il fut enlevé dans le paradis, verset 4. Paradis, c'est un mot qui nous vient du persan, de la Perse. Ça désignait un jardin clos. Le jardin qui appartenait au roi. Et quand le roi voulait honorer ses sujets, quand le roi voulait honorer ses sujets, il en faisait, entre guillemets, j'ai votre attention, un compagnon du jardin. Ce qui lui donnait le droit de venir se promener dans le jardin royal en compagnie du roi. Un peu à l'image de Adam et Ève qui pouvaient marcher avec Dieu dans le jardin d'Éden. Et donc, Paul a connu une intimité sans précédent dans sa vie avec Dieu. On est là. Plein d'attention, on va enfin avoir des détails sur le paradis. Eh bien non, désolé. Il a entendu des paroles qu'il ne peut pas répéter parce qu'elles sont ineffables. Les mots ne peuvent pas décrire ce qu'il a entendu. Et même s'il arrivait à avoir des mots, il n'a pas le droit de le faire. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer ces choses-là. C'est un peu frustrant. Nancy sait comment m'énerver. Elle le fait presque jamais. Mais elle sait que si elle me dit « Oh, j'ai une bonne nouvelle » ou « Oh, j'ai une mauvaise nouvelle » que si elle ne me dit pas tout de suite ce que c'est, je vais m'impatienter. Et là, Paul, il nous dit « Désolé, mais je ne peux rien vous dire. » Et on pense qu'il va peut-être dire maintenant « Alors vous, les apôtres, là, qu'est-ce que vous avez comme histoire pour supérieure à la mienne ?» Il dit au verset 5, en fait, non, la seule chose dont je veuille me glorifier, ce sont mes faiblesses. Encore une fois, il aurait tous les droits, suivant la logique de ces faux apôtres, de dire la vérité et de dire, c'est pas mal, hein. Mais il ne veut pas donner une fausse image de la réalité. Passer pour plus spirituel qu'il n'est. Parce qu'en fait, s'il a reçu une révélation sur le chemin de Damas, ce n'était pas grâce à ses qualités, c'était la volonté de Dieu qui s'est... ses révélations. Plutôt, à la suite de ces révélations, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est de ça qu'il veut parler. Deux fois, il dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc, pour nous, c'est intéressant de remarquer que les gens les plus spirituels sont eux aussi susceptibles d'orgueil, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Chuck Smith pense même qu'on voit moins de miracles aujourd'hui.
Chuck Smith believes that we see fewer miracles today.
Parce qu'il n'y a pas d'homme qui soit assez près de Dieu pour être humble et être capable d'être utilisé pour être ses instruments de miracles.
Because there are not enough men close enough to God and humble enough to be used in this way and remain humble.
Et donc, pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, il a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter, c'est-à-dire me donner des coups, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. L'écharde dans la chair de Paul. Qu'est-ce que c'était ? Les spécialistes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y en a qui pensent que c'était des tentations spirituelles. Ça, c'était l'opinion de Calvin. D'autres pensent que c'était les persécutions qu'il endurait. Ce que pensait Luther. D'autres disent que c'était des tentations charnelles, des désirs sexuels. Ça, c'est l'opinion des catholiques. Il y a même un vieux commentateur écossais qui devait être un peu macho et sexiste parce qu'il disait l'écharpe dans la chair, c'était Madame Paul. Oh. Non, non, non. Certains pensent que c'était son apparence physique.
Les jambes arquées, petits, le nez long, une seule barre de sourcils.
His bowed legs, a short man, his one line of eyebrows, his hooked nose.
D'autres pensent que c'était peut-être une migraine chronique.
Some think it might have been a chronic migraine.
D'autres pensent que c'était une fièvre due à la malaria, au paludisme, qui revenait périodiquement. Il est question d'un ange de Satan. Et 188 fois sur 188, dans le Nouveau Testament, un ange est toujours une personne, soit une personne angélique, soit une personne humaine.
Or
an angel. Celestial being or human.
Or human being.
Et donc certains pensent qu'en fait ça devait être le chef de la bande de ses détracteurs. Et cet homme, c'était son épine dans la chair, c'était son écharpe dans la chair.
This man was his thorn in the flesh.
Souvent on l'utilise comme ça, dans notre langage habituel. Une personne vraiment pénible, on dit c'est une épine dans la chair. Beaucoup de commentateurs pensent qu'il s'agissait simplement peut-être de ses problèmes de vision. On sait qu'après sa rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, il s'était retrouvé aveugle. Et que sans doute, il y a des passages dans Galates qui font allusion à un problème de vision. Il dit aux Galates que si vous pouviez, vous me donneriez vos yeux. Oui, il dit, voyez, j'écris avec ma propre main, avec des gros caractères, comme quelqu'un qui n'arrive pas à voir. Libre à vous de spéculer. La seule chose certaine, c'est que lorsque Paul a réalisé qu'il avait ce problème, il a eu la conviction que ça allait être un grave problème. Que ça allait détruire son ministère potentiel, son utilisation par Dieu potentiellement. Quelque part, on peut même remercier Dieu, c'est toujours bon de remercier Dieu. Qu'en fait, on ne sache pas exactement ce qu'était l'écharpe dans la chair. Ça veut dire que quelle que soit notre condition, quelle que soit l'épreuve que nous avons à traverser de façon chronique, régulière, alors l'encouragement que Paul a reçu, il est pour nous aussi. Il est dit que cette écharde a été mise, il m'a été mis une écharde dans la chair ou il m'a été donné. Le même mot en grec pourrait se traduire par donné. Et donc là, on a cette situation un peu paradoxale où on voit que à la fois Dieu et Satan influencent la vie de Paul. Bien sûr, Satan veut détruire. Et cette écharde, il espère que ça va détruire Paul. Mais Dieu, à son habitude, transforme le mal en bien. Souvenez des paroles de Joseph dans la Genèse 50-20 où il disait à ses frères qui avaient voulu le tuer. Et sans rentrer dans les détails, suite à ça, Joseph était devenu le premier ministre de l'Égypte et avait permis de faire survivre le peuple d'Israël pendant la période de famine. Il leur dit, vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Paul dans Romains 8, 28 disait, nous savons du reste que toutes choses, même les mauvaises choses, même les attaques, même les échardes, coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est bon d'avoir cette assurance. que Dieu reste le maître de l'univers,
that God remains the master of the universe,
de l'éternité, et qu'il a la puissance de tout transformer en bonne chose pour nous. Ça, on peut le croire si on a la foi en la parole de Dieu, que ce qui est écrit dans ce livre, c'est vraiment la vérité. Paul n'était pas un masochiste. Il n'a pas dit, tiens, la souffrance, chouette. Non, de tout son corps, il a voulu rejeter cette douleur, cette épreuve inconnue. Et trois fois, il nous dit, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Remarquons que lorsqu'il a eu ce problème, Paul n'a pas dit, je vais joindre un groupe de soutien. Je vais aller voir un psy. Il n'en a même pas parlé à un ami chrétien. Il n'a même pas été voir son pasteur. Il est allé voir Dieu tout de suite. Il a parlé trois fois. Est-ce que c'était trois occasions distinctes ou une façon de dire qu'il a prié à maintes reprises? Peu importe. Bien sûr, cela nous rappelle Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané, où Jésus priait que cette coupe s'éloigne de lui. Mais il ajoutait, non, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux, que ta volonté soit faite. Et il y a un auteur français, Madame Guyon, une chrétienne du 18e siècle, qui disait qu'il y avait une puissance divine incroyable dans une douleur, dans une épreuve qui était acceptée. Si nous avons une épreuve, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous l'acceptons. Quelles qu'en soient les conséquences, nous allons voir qu'il y a une puissance qui va agir. La chose merveilleuse, c'est que Paul a prié et Dieu a répondu. Notons bien que Paul a fait silence pour pouvoir entendre la réponse de Dieu. Trop souvent, nous prions, mais nous ne faisons pas silence devant Dieu. Et Dieu répond aux prières de trois façons. Oui, non, attends.
Yes, no, or wait.
Dans le cas de Paul, il a dit non.
And in Paul's case, he said no.
Mais Dieu, dans sa miséricorde, a expliqué à Paul pourquoi.
But God, in his mercy, explained to Paul why.
Il lui a fait comprendre que cette souffrance, elle avait un but.
He communicated to him that his suffering had a purpose.
C'est que l'expérience de cette extase risquait de le perdre par l'orgueil. Et Dieu, s'il veut utiliser un homme, il veut s'assurer qu'il est prêt à l'usage. Et l'orgueil nous disqualifie automatiquement. Et donc, cette écharpe dans sa chair, elle a été donnée pour pas qu'il se vante, pour pas qu'il soit enflé d'orgueil, puffed up.
Himself, he puffed up in pride.
Et il m'a dit, ma grâce te suffit.
And God said, my grace is sufficient for you.
Notons bien qu'il n'a pas dit, ma puissance est suffisante pour toi. Ma force est suffisante pour toi.
My strength is sufficient for you.
Ou ma sainteté est suffisante pour toi.
Or my holiness is sufficient for you.
Il a dit ma grâce.
He said my grace.
La grâce, c'est d'abord la faveur de Dieu qu'on ne peut pas mériter.
Grace is first of all the favor of God that we don't deserve.
Nous avons déjà dit que la justice, c'est obtenir ce qu'on mérite. Je fais une faute, je suis puni parce que je mérite d'être puni. La miséricorde, c'est obtenir, ne pas obtenir ce qu'on mérite, pardon. Je devrais payer une amende parce que j'ai fait un stationnement interdit. Mais le président, dans sa miséricorde, va donner l'amnistie. La grâce, ça va encore beaucoup plus loin. C'est obtenir ce qu'on ne mérite pas. Cet aspect de la grâce, c'est reconnaître que Dieu est la source de toute bonne chose. Peut-être que vous ne connaissez pas encore Dieu, mais vous êtes au bénéfice déjà de sa grâce.
Le
fait que vous soyez vivant, capable de communiquer avec les autres, vous devriez être reconnaissant à lui. Une autre nuance de l'expression de grâce, ça vient toujours de Dieu, c'est l'aide de Dieu qui est mise en œuvre par l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit que nous ne méritons pas, qui est un don aussi, qui vient nous aider à faire l'œuvre de Dieu. C'est un peu ce qu'on dit lorsqu'on dit « Par la grâce de Dieu, je suis arrivé à aimer ce voisin désagréable. » Et cette phrase, on pourrait passer tout un sermon à l'analyser. « Ma grâce te suffit. » Ma, c'est Jésus qui parle. C'est Dieu. C'est bien d'avoir la grâce auprès de... que certaines personnes vous montrent de la grâce, mais la grâce qui vient de Dieu, ça c'est de la grâce qui compte. Elle te suffit.
And the grace is sufficient for you.
Dieu l'a dit à Paul, mais à travers Paul, il nous le dit à tous. Elle te suffit.
It is sufficient for you.
Elle convient à tes besoins.
It's sufficient for your needs.
Elle est adéquate.
And it's without limit.
Just ad hoc. Mm-hmm. Elle peut convenir à la fatigue physique.
It can supply for us in physical fatigue.
À la douleur physique.
In physical pain.
À la douleur morale. Au deuil, à l'opposition, aux calomnies, à toutes vos situations, dans toutes les situations, tous vos besoins sont couverts par sa grâce. Un auteur anglais, John Blanchard, a écrit « Dieu pourvoit la quantité de grâce parfaite pour faire face aux besoins des croyants. »
English author John Blanchard wrote that God provides all grace for every need.
Pour les besoins quotidiens, il y a la grâce quotidienne.
For daily needs, there is daily grace.
Pour les besoins soudains, il y a la grâce soudaine.
For sudden needs, there is sudden grace.
Pour les besoins écrasants, il y a la grâce écrasante, dans l'autre sens. Il ajoute, Dieu ne gaspille pas sa grâce. Il l'offre gratuitement, mais pas de façon inconsidérée. Avec abondance, mais pas de façon aveugle. Et il ajoute, ça me fait penser justement à la provision de la manne dans le désert. Juste ce qu'il fallait. Des fois, on se dit, ça serait bien d'accumuler un peu de grâce. Comme ça, quand ça vient à manquer, on aura nos sandwichs SNCF. Non, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En physique, il y a le phénomène de l'action et de la réaction. Si on met une graine de cacahuète sur le sol, la cacahuète ne va pas tomber ni s'envoler.
The peanut won't fall
or go through the floor or fly up. C'est valable pour une cacahuète.
That's true for a peanut.
C'est valable pour un grand piano, un piano à queue. J'essayais de penser à quelque chose de lourd. On a aidé Paul à bouger un piano. La même façon, le piano, quand on le pose ici, si le sol est assez costaud,
the ground is solid enough,
pas dans la mezzanine à Magnan,
maybe not in the loft at our place in Magnan,
le piano va rester là. Il
ne
va pas s'enfoncer, il ne va pas s'envoler. Et de même qu'il y a l'action et la réaction, il y a nos besoins et il y a la grâce de Dieu. C'est facile de voir ça quand on regarde en arrière. Pensez peut-être à vos épreuves, comment Dieu vous a soutenu. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous lui fassiez confiance que ça va continuer. Pour savoir que la grâce de Dieu est suffisante, il faut comprendre que nos ressources, elles, sont insuffisantes. Quelqu'un dit là, il faut apprendre que la faiblesse humaine, elle marche main dans la main avec la grâce de Dieu. Si je n'ai pas la main ouverte pour dire à Dieu, oui, je suis faible, j'ai besoin de toi, Dieu ne peut pas donner par sa grâce. Et nous faisons trop souvent l'erreur de penser que mûrir spirituellement, ça va se traduire par une plus grande indépendance de Dieu. Grandir pour un enfant, c'est avoir besoin, avoir moins besoin de ses parents. Mais ce n'est pas vrai du tout en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Et Dieu va s'assurer qu'on ne tombe pas dans ce piège. Il va créer ces circonstances douloureuses. Ces circonstances, on va être forcé de se tourner vers lui. Des circonstances qui vont me forcer à dépendre entièrement de lui. Et Paul se réjouissait justement de toutes ces souffrances parce que ça le forçait à se tourner vers Dieu, à recevoir la grâce suffisante de Dieu. Charles Spurgeon, le grand prédicateur anglais du 19e siècle, ça fait deux siècles maintenant, disait qu'un jour il était vraiment déprimé, fatigué, il voyait tout en noir. Et ces paroles lui sont revenues dans l'esprit, « Ma grâce te suffit ». Il a commencé à sourire. Il a dit, oui, c'est vrai, c'est de l'humour, ça. De l'humour. D'un côté, il y a Dieu avec toute sa puissance, toutes ses ressources, toute son éternité, tout son amour. Sa grâce. Puis de l'autre côté, il y a petit moi. Il y a petit moi qui regarde et qui se demande si cette grâce va suffire.
And little me looks and wonders if all that grace is sufficient.
Et Spurgeon disait, c'est un peu comme si le petit poisson dans l'océan se demandait s'il n'allait pas assécher l'océan parce qu'il se permettait de boire un peu d'eau. La grâce de Dieu. Cette chose merveilleuse. Comment l'approprier? Cette force, cette grâce, elle est en Jésus-Christ. Pour bénéficier pleinement de toute la grâce divine, il faut venir à Dieu par Jésus-Christ. Nous devons nous satisfaire de cette grâce. Paul au verset 10 dit qu'il a trouvé le contentement. Parce qu'il a trouvé que lorsqu'il est faible, c'est là qu'il est vraiment fort. Parce qu'à ce moment-là, Dieu est libre d'agir à travers lui. Quel est votre plus grand besoin maintenant? Peut-être vous êtes dans une situation très difficile. Peut-être que vous avez besoin de patience. Peut-être que vous traversez une période de solitude. Faites confiance à Dieu.
Trust in God.
Sa grâce nous suffit.
His grace is sufficient for us.
Pour tous nos besoins. Quelque part, ça fait peur parce que on se dit, si jamais il n'arrivait pas tout de suite avec sa grâce.
Ways,
Je vous ai parlé de cette maman qui vient de perdre un fils qui s'est tué dans un accident de moto. Et elle-même n'en revient pas de ce qu'elle peut continuer à vivre. Elle fait l'expérience de ce que la grâce de Dieu est suffisante. Ce matin, Dieu veut vous encourager, quelle que soit votre situation, vos doutes, vos questions. Même si vous ne le connaissez pas encore, même si vous n'aimez pas, si vous ne cherchez pas à le connaître, il vous aime. Et il veut que vous veniez à lui, sachant que sa grâce vous suffit.